Vous écoutez
RMC.
Thierry, tu peux faire le geste de ta vie. Monsieur l'arbitre, tu fais main. Il l'a pas fait pour lui, pour tout le monde, c'est tellement dommage.
J'aime pas trop celui-là.
Non plus, c'est pas mon prix.
J'ai la même voix qu'il
y a. Voilà, là, il y a une grosse prise de risque.
C'est tellement politiquement correct, cette prise de position sur Thierry Henry. Hein, ça te ressemble pas.
Ah non, ouais, c'est vrai. À l'époque,
oh là, j'étais seul.
Bah, à l'époque.
Ah si, non, moi, je peux te dire, j'étais à France Télévisions. Et les mecs, tout le monde disait eh, on s'en fout, on est qualifié, on n'en a rien à foutre. Alors que moi, je prenais
toi, qu'ils disent, le chevalier
qu'ils,
blanc.
Qu'ils disent au moins, j'ai fait, qu'ils le disent. Après, je dis c'est pas grave, j'en ai pas voulu. Je comprends qu'il l'ait pas fait. Je disais juste s'il l'avait fait, mais cette affaire, moi j'aurais applaudi.
C'est toujours pareil, c'était une affaire où t'avais les gens qui connaissent le football. Et t'avais les gens qui ne le connaissent pas, et puis qui avaient l'espèce de scandale.
Non, je veux te dire, j'étais totalement isolé parce que ça n'était pas pour critiquer Henri, pour le clouer au pilori, c'était de dire s'il l'avait fait par hasard, s'il avait dit monsieur arbitre, j'ai fait main. Ah, moi, j'aurais dit incroyable, le mec, il est juste non,
mais
incroyable.
Tu peux pas lui en vouloir, non, de ne pas le dire.
C'est ce que je te dis, j'ai pas voulu le mettre sur la place publique en disant.
J'ai peur que ce soit un débat plus intéressant que ce qu'il va nous proposer sur Monaco. Parce qu'il y a 23h33, fin d'after, comme ça, nous proposer Monaco, qui est quand même le club qui soulève le moins de passion.
Attends, déjà. Il y a une chose qu'on a pas dit dans l'after.
Pour le choix de Flo.
Il faut qu'on rende ça officiel.
Déjà qu'on parle de Monaco.
Non, mais déjà, un.
Bah oui. C'est ça qui m'inquiète.
En l'espace d'un mois, Damien Perrinel a fait son retour sur le banc de l'équipe professionnelle. Depuis, ça gagne.
Mais ça, on l'a déjà dit, il faut qu'il lui file les clés.
Attends.
Quand il lui file les clés du club...
À Monaco, qu'est-ce qu'on fait? On a recruté Simone Rovera.
On ne l'avait pas dit, ça?
Mais non.
On ne l'avait pas encore dit.
Non.
Ah bah oui, Simone
bosse désormais à la com de l'AS Monaco.
Ah,
donc, alors, l'AS Monaco recrute les actes de l'after.
On a eu le voir, là, bientôt.
Décidément,
tous les gens de qualité qui sont passés par l'after.
Est-ce qu'on peut les laisser en France, vraiment, les Monaco?
Moi,
c'est un vieux débat,
moi,
ça.
Moi, je pense que Damien doit prendre les clés du club, parce que, ouais, franchement, c'est...
Pour faire une sorte de crossover avec tous ces noms que vous avez cités, est-ce que Monaco ne devrait pas jouer en MLS avec Damien Perrinel comme coach et Simone Rovera comme attaché de presse? C'est bizarre.
Attends. Ne rigole pas, parce qu'il y a ce que Gilbert vient de dire. Ajoutons à cela, quand même, que deux coachs de Ligue 1, dont un qui est dans une série extraordinaire, ont comme professeur Thibaut Leplat.
Exactement.
Ça, c'est pas rien.
Comme mentor, Thibaut Leplat.
N'oublions pas que Pierre Sage a pour prof personnel Thibaut Leplat. C'est lui qui le prépare.
Thibaut Leplat, qui a aussi dans ses poulains le manager de l'équipe de France de waterpolo, qu'on a reçu il y a pas si longtemps.
Oui, c'est vrai. Mais t'étais là le soir où il est venu?
Non, j'étais pas là. Mais
oui, il est venu, le boss du waterpolo.
Très sympa.
Comment il s'appelait? Merde. Il a un nom italien.
Bruzzo.
Hein?
Bruzzo,
en tout cas, ça se passe.
Il cite du Thibaut Leplat dans ses causeries. C'est beau.
Absolument.
Moi, je vais suivre avec frénésie le waterpolo.
Après, il y a Saint-Régis, ça se passe un peu moins pour Saint-Régis, mais Thibaut va s'arranger pour qu'il se maintienne.
Corian Bruzzo.
Normalement, ils vont se maintenir. Il faut juste que Thibaut aille en Bretagne, ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé.
Bon, est-ce que tu veux bien laisser la parole à Flo?
Mais en fait, je meuble un peu parce que j'ai peur de son avis Monaco.
Vas-y, Florent.
Allez, fais-nous rêver.
Alors, Monaco.
Oh là.
En fait, Monaco, si tu regardes l'effectif et si tu regardes ce qui s'est passé dans la saison, en gros. Non, j'ai leur calendrier sous les yeux. Ça me suffit. En fait, je fais sans note. La vie, c'est pour dire simplement que vu l'effectif, vu le calendrier, l'absence de deuxième d'Europe, Monaco ne peut pas, ne doit pas être en dehors du podium. C'est-à-dire que j'enlève même la quatrième place maintenant, parce que par rapport à Lille, puisque
c'est là qu'est la prise de risque.
Bien sûr. Parce que Lille, tu voulais en parler, je crois aussi. On va peut-être en parler après. On va en parler après. Il y a la Coupe d'Europe, il y a le match mine de rien en plus, et c'est pas anodin. Monaco, en fait, ils auraient dû être les challengers du PSG. En fait, leur saison, elle est déjà plus ou moins caviardée, vendangée. Monaco, comme dit Daniel, il se passe jamais rien, les joueurs font n'importe quoi, ils doivent être les challengers du PSG, ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de Coupe d'Europe pour finir la saison. Et j'ai entendu, c'est pour ça que ça a suscité cette idée, cette envie de débat, ils jouent à Brest, ils reçoivent Lille et ils vont à Lyon dans leur prochain match. Donc,
une grosse série.
On m'a dit, attends, ouais, mais Monaco, c'est pas simple, parce qu'ils jouent contre l'équipe Brest, l'équipe en forme, ils reçoivent Lille qui est super fort en ce moment, ils vont à Lyon qui a... Et c'est ça qui a provoqué cette envie d'avis en disant Monaco maintenant n'a plus le droit à l'erreur. Ils ont utilisé tous leurs jokers. C'est un gâchis monumental. C'était eux qui avaient le plus de chances sans Coupe d'Europe et avec l'effectif qu'ils ont même d'aller titiller pourquoi pas un PSG qui était en année de transition. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est vrai que c'est pour ça, très simplement, effectivement, pour un avis très court, Monaco devrait même être deuxième de ce championnat-là. Ils vont peut-être même pas l'être. Et donc, le podium est obligatoire. Et ce serait rien du tout. Ce serait même pas un exploit. Ce serait la normalité. Maintenant, il reste un truc. C'est que derrière ces trois matchs, effectivement, qui sont un peu compliqués sur le papier, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Nantes. Donc, effectivement, Monaco n'a plus que jamais pas le droit de ne pas être sur le podium. Alors, on connaît que c'est pas l'avis du siècle, mais c'est pas non plus avis de merde comme tu le sous-entendais.
Déjà que je le comprenne bien, ton avis, c'est qu'en fait, tu leur.
Je trouve qu'ils ont pas fait une belle saison.
Oui, non, mais tu. En gros,
s'ils finissent sur le podium,
comme si tu les obligeais à terminer troisième en vue de leurs moyens et du calendrier favorable, ou pas forcément favorable, mais du fait que Lille a également d'autres occupations.
Et que surtout, n'en ont pas eu de la saison.
Ça, je le comprends. Mais ça veut pas dire, si je comprends bien ce que tu me dis, ça veut pas dire qu'ils vont réellement faire troisième.
Non, parce que ça, c'est un pronostic.
D'accord. Parce qu'ils ont 3 points d'avance sur Lille. Alors, Lille va jouer son aller-retour, là. Ouais, et successivement. Effectivement, avec aucun match entre les deux. Ce qui est effectivement une bonne idée qu'a eu la LFP pour ce coup-là. Ils ne seront pas favoris face à Aston Villa. Je ne sais pas trop comment ils vont sortir de ce match-là.
Mais ce n'est pas un match qui ne va pas laisser de traces d'une manière ou d'une autre. Double confrontation. C'est pas anodin pour eux, tu vois. Pendant ce temps-là, Monaco.
Dans la foulée, ils iront à Monaco.
Exactement.
Et moi, je pense que ce jour-là.
Non, pardon, il reçoit Strasbourg avant.
Il y a Lille-Strasbourg avant ?
Ouais. Lille-Strasbourg le 21 avril et Monaco-Lille le 24 avril.
Donc, le dimanche, et après, il rejoue le mercredi.
Exactement.
Qui va être un enchaînement, mine de rien, assez important. Fonseca va devoir bien gérer son effectif à ce moment-là.
D'où la vie pour Monaco.
Mais néanmoins, si j'enlève le match contre Strasbourg, non pas. Strasbourg soit du menu frottin battu d'avance. Mais avant d'avoir un avis sur ce qui peut se passer dans la fin de saison de l'un de l'autre, j'attendrai ce match-là qui sera un match au sommet très important, justement pour la troisième place.
Maintenant.
Alors, je vais te le prendre le risque.
Moi, je te dis, Monaco va le faire.
Moi, je te prends le risque. J'ai presque envie de penser que Lille sera devant Monaco à la fin de cette saison.
Ah, c'est bien. Voilà.
Justement, on va enchaîner avec Lille dans quelques instants. Et je vais vous poser cette question.
Sauf si Lille bat Aston Villa.
Et si Lille était l'équipe la plus séduisante de cette fin de saison-là ?
Ah mais ça, nous, on en a parlé vendredi en votre absence, messieurs, de Fonseca, du jeu de l'équipe. Effectivement, je suis. Alors, attention, hein, si tu as vu le match de Brest hier, je l'ai regardé. Franchement, Brest, c'est chouette à regarder.
Oui, c'est très agréable.
Très fluide, ça joue très propre, c'est vrai, simple. C'est efficace, il n'y a pas un énorme, mais d'ailleurs je fais un éloge de la simplicité de ce que met en place Éric Roy, où les joueurs sont dans des mouvements qui semblent tous très naturels. Je sais pas, dans leur passe, dans leur façon de jouer, techniquement c'est très propre. Ils ont fait, en plus, je ne peux pas dire, ils ont battu Metz, machin. Alors la fin de match a été horrible. Le dernier quart d'heure, ils ont complètement décroché. Quand Metz est revenu de 4-1 alors qu'ils avaient balle de 5-1.
D'ailleurs, hier soir, on devait parler des défenses. Flo, on l'a pas fait.
Ouais, dommage.
Oui, mais en l'occurrence, Brest, c'est pas la défense, c'est la démobilisation de l'équipe. C'est parce que les mecs de devant.
Mais
les mecs de devant ne faisaient plus rien.
C'est ce que je voulais dire, moi. C'est globalement, c'était un truc très global.
Ils ont lâché. Ils ont la balle de 5-1 et après.
Plus globalement, en Ligue 1, ce qui me gêne par rapport à tout ce qu'on a fait, on a déjà fait, on a évoqué les carences techniques, on a évoqué tout ça. Je dis encore offensivement de très belles choses parfois et de très individuellement aussi. J'estimais que individuellement parfois sur les postes, d'ailleurs les latéraux c'est un vrai souci jusqu'à l'équipe nationale, dans la façon de défendre, tu prends un exemple à Rennes que j'ai sous les yeux avec Guéladoué, que j'estime être un très bon joueur, le frère de Désiré, mais qui est encore pas assez bon défenseur. Tu sais, ces gars qui sont très bons contre-attaquants, qui sont très forts techniquement mais qui sont pas de vrais défenseurs, cette culture du geste défensif. Mais aussi effectivement, tu as raison, sur ces matchs où parfois le groupe lâche et fait pas les efforts. Je trouve que dans cette culture, qui est de la culture tactique quelque part, la culture tactique défensive se perd, le geste défensif se perd aussi. Et on parle beaucoup de la carence technique. Et quand on parle de ça, on parle souvent offensif. Et moi, j'ai mal pour ça parce que je trouve que défensivement, on perd aussi cette culture-là un peu en Ligue 1. Mais c'était un aparté.
Donc je reviens à Lille, t'as raison. Et je mettrai Brest, qui sont les deux équipes hors PSG quand ça joue, hein, évidemment. Qui sont les deux équipes qui offrent des footballs faits de techniques, de mouvements. Brest, le mec qui donne le ballon, l'autre se déplace, il lui propose une solution. Enfin, c'est très agréable. Ces deux équipes, effectivement, c'est même mieux que Monaco à regarder. Hein. Moi, je préfère. Hein. Et juste un dernier mot sur la Ligue 1 avant qu'on ait plus le temps.
On a encore un quart d'heure.
Je pense que pour le coup, le podium des quatre, Je pense que là, il est définitivement constitué parce que derrière, ça avance pas. Ouais, et derrière, pour le coup, c'est faiblard.
On l'a dit hier. La journée d'hier, t'as vu la scission qui s'est faite en plus. La scission, la dynamique.
Au niveau des points, la scission, elle est au niveau du jeu, de ce que proposent les équipes.
Ouais, du mental.
Je suis assez déçu par Rennes. Je pensais qu'ils pouvaient accrocher quelque chose de différent dans cette fin de saison. Je sais pas. Toi, tu regardes plus.
Mental.
Ils ont lâché le truc.
Avec Walid, on a élaboré la théorie de, on s'est fait notre immeuble.
La maison. La cave. On est parti de la cave et on est monté au quatrième.
Exactement. On est monté jusqu'au trois terrasses.
Les moyennes de points sont catastrophiques.
Dans l'étage, Lens, Nice, Marseille, Rennes, Lyon, la dynamique la plus favorable, c'est Lyon, les gars.
Ah oui. Lyon, ils ont 38 points quand même. Hein. Même pour aller choper Nice comme à 44,
on verra, mais enfin, la dynamique, en tout cas, lyonnaise, pour l'instant, est la plus favorable.
Après,
ils jouent les 4 premiers dans les 4 prochaines journées, les Lyonnais. Revenons à Lille dans quelques instants, supporters du LOSC, qu'on vous attend au 32-16.
Hier contre Nantes, les Lyonnais ?
Non. Dans les 20 dernières minutes. 20 minutes seulement.
Ouais.
Hein, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai dit hier. Moi, je pense que ce match, il est intéressant.
Avec la Z qui doit sortir.
Ce match, il n'est pas. Moi, je pense que, tiens, pour finir là-dessus, Gilbert, et pour ces histoires d'étages là, et d'équipes, la journée d'hier, enfin, le moment là, qu'on vient de vivre sur quelques journées qui a abouti à ce panorama assez clair de la Ligue 1 montre aussi certaines équipes qui vont rester à leur niveau. C'est-à-dire celles qu'on a vues remonter, je te l'ai dit, comme l'OM de Gassé, comme le Rennes à un moment donné de Stéphane, même là, comme le Lyon de Pierre Sage. Bah même ce Lyon de Pierre Sage, il va pas aller beaucoup beaucoup plus haut, parce que si tu regardes le match d'hier, comme disait Kipling, la victoire et la défaite peuvent être deux menteurs. Bah oui, la victoire d'hier, elle est intéressante.
C'est Thierry Roland qui a dit ça, c'est pas Kipling.
Mais c'est aussi Kipling, et c'est vrai que si tu regardes le match, tu te dis que les lacunes, les manques, ils sont existants, et que quelque part ces équipes-là sont à leur niveau. Je parle de ce fameux groupe dont tu parles, le Nice qui est trop poussif, le Rennes qui mentalement n'y arrive plus, et qui a lâché, comme on les a vus contre le PSG, comme on les revoit là.
Rennes, Marseille, ils ont lâché. 39 points, les moyennes de points.
Ils ont lâché.
T'imagines quand tu n'as, à part le PSG, tu n'as aucune équipe qui a 2 points de moyenne dans le championnat. Même Brest, hein, qui font un parcours admirable, ils ont 53 points. Bon, il faudrait qu'ils en aient 56 pour le x2, pour le 2 points par match. C'est dur. Une équipe comme Monaco, quand même, avec l'effectif, les moyens qu'ils ont, ils se traînent à 52 points. C'est des moyennes qui sont catastrophiques sur notre Ligue 1 cette année. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Hein.